Oui, excusez-moi, juste une question là.
Quelles ont été les causes de la dernière révolution culturelle en Chine?
Alors, c'est Mao qui a fait après le grand bond en avant. Il a voulu reprendre en main le parti. Et c'est, il y avait des velléités, notamment la bande des quatre et d'autres. Il y avait des velléités au fond de sous-main. Et il a voulu reprendre ceci. Donc, il a lancé d'abord le grand bond en avant, qui fixait des objectifs de développement culturel, enfin économique, pardon. Et ensuite, la révolution culturelle s'est basée sur les jeunes, les jeunes gardes rouges, pour au fond combattre tous les démons anticommunistes, les ennemis du peuple, les réactionnaires. Mais au fond, c'était pour reprendre la main à travers le peuple. Voilà. Ça a duré 10 ans. Alors Tiananmen, c'était ensuite, en 89. Et Tiananmen, c'était au fond les jeunes qui ont manifesté pour avoir plus de liberté, notamment des jeunes étudiants. Et c'était Deng Xiaoping qui était au pouvoir à ce moment-là, c'était pour Mao. Et vous savez, il y a 3 pouvoirs en Chine. Le parti, l'armée et le peuple. Et Deng Xiaoping venait de l'armée, il avait l'armée du Sud, il était commandant de l'armée du Sud. Et vous avez 3 armées en Chine, l'armée du Sud, l'armée du Nord, et l'armée la plus importante, c'est celle du centre qui protège Pékin. Et donc il a demandé à l'armée de Pékin d'intervenir. Et l'armée de Pékin a refusé. Ils ont dit, jamais nous élèverons contre le peuple. Il a fait venir l'armée du Sud, ce qui a pris beaucoup de temps. En effet, avant qu'il y ait quelques éléments, que les chars arrivent depuis le sud de la Chine, et ensuite ils ont maté la révolution. Mais c'était un signe important pour le parti de sentir qu'il faut qu'ils aient l'armée pour eux et surtout le peuple. Ils ne peuvent pas se scinder du peuple. Et déjà, toutes les dynasties chinoises ont été renversées par le peuple. Le peuple est premier. Et les Chinois sont des gens qui manifestent facilement. Donc, il y a une armée. Il y a l'armée de libération du peuple, mais l'armée intérieure de contrôle, si vous voulez, de la population, est impressionnante. En Chine, dans chaque maison, il y a plusieurs appartements, vous avez un responsable qui doit connaître tout le monde. Chaque îlot de quartier, il y a un responsable qui rassemble tous les responsables de chaque maison. Chaque quartier, tous les responsables de chaque îlot, etc. On veut savoir ce qui se passe. Et quand le peuple manifeste, on lui donne raison. Et la lutte aujourd'hui contre la corruption, c'est parce que le peuple en a marre. Oui. Donc il y a une lutte, c'est pas uniquement interne, il y a aussi quelque chose, on profite de l'un pour faire l'autre. Mais il y a une volonté aujourd'hui de remettre de l'ordre, parce que la population gronde. Il y a trop de problèmes de corruption, de malversation, d'exploitation, confiscation des terres, pollution, problèmes de santé dramatiques. La population commence, la marmite, boum. Et ça, le parti ne veut pas. Parce que si il y a un conflit entre le parti et le peuple, je peux vous dire de quel côté l'armée. Elle se risque, oui. Donc le parti contrôle le peuple et essaye, si vous voulez, de maintenir son pouvoir. Oui.
J'avais une petite question quant à la situation de l'Église catholique en Chine. J'étais il y a 2 ans dans la province du Yunnan, durant un mois sur les pas d'un martyr valaisan, le bienheureux Maurice Tornier, accompagné. C'est moi. Et c'est vrai que j'ai vécu une réalité assez. Je dirais pas différente, mais ça. En fait, vous avez expliqué en 2015, voilà, par exemple, le fait qu'on enlève les croix. Mais c'est vrai que la situation était vraiment difficile. Chaque messe était clandestine. Et même, je veux dire, voilà, il y a des églises, mais c'est. Enfin, les chrétiens que nous rencontrions là-bas, des séminaristes qui sont rattachés à Rome, avaient très peu de sympathie pour cette église catholique là, parce que justement il disait que c'était l'église d'État et qui crée plus de problèmes qu'autre chose. Donc ça m'a l'air d'être situation bien plus compliquée que...
Vous avez tout à fait raison. Là, j'ai compris votre question, si c'est une question. La situation est bien plus compliquée que ça. Elle est différente de province en province. C'est un continent. Donc, il y a l'application locale par les autorités qui peut varier. Maintenant, ceci, il faut savoir, c'est qu'il y a entre l'église souterraine et l'église officielle, est-ce qu'on peut dire une mésentente? Est-ce qu'on peut dire des tensions? Est-ce qu'on peut dire des incompréhensions plutôt? Voilà. Parce que l'église souterraine qui était martyr, elle trouve que l'église officielle, ce sont des vendus au parti, puisqu'ils ont se sont alignés à la ligne officielle. On ménage avec le Parti communiste. Ceci étant, s'il n'y avait pas l'église officielle, il n'y aurait pas d'église ouverte. Vous pouvez vous confesser. Vous pouvez recevoir le Saint-Sacrement. Vous marier, être baptisé. C'est que les églises officielles n'auraient pas cette ouverture, cette présence. Donc il y a des prêtres et des évêques qui se sont sacrifiés pour faire cela. Parce qu'ils ont été jugés comme des parias. Ils ont été jugés comme des traîtres. Et ils ont vécu aussi une sorte de martyr. Benoît XVI écrit en 2007 une lettre aux catholiques de Chine en disant « Réconciliez-vous, il n'y a qu'une église. Il n'y a qu'une église. Elle est mise souterraine et officielle. Nous sommes tous frères et sœurs. Réconciliez-vous. » Voilà ce qu'il a dit le Benoît XVI. Alors, cette réalité peut être vécue dans un autre, dans une... l'environnement donné, d'une certaine manière, peut y avoir vécu dans l'autre. Voilà. On a des prêtres aussi, l'église souterraine, qui sont extrêmement remontés. Mais il y a des fois des attitudes politiques. Et il faut voir que des fois, c'est une opposition au gouvernement, une opposition politique au gouvernement. Je ne dis pas chez tous, pas entendons-nous. Mais voilà. Alors, l'église souterraine, l'église officielle, voyez, il y a un émissaire qui est envoyé par Jean-Paul II, s'appelle Jérôme Hendrix, parle chinois parfaitement. Il a dit, allez en Chine, je veux savoir s'il y a un schisme. Et je veux savoir s'il y a un schisme. C'est-à-dire, est-ce que l'église officielle n'est plus catholique? Est-ce qu'ils obéissent à Mao, à Deng Xiaoping, à Hu Jintao, à Xi Jinping, mais pas au pape? Il a fait une enquête, il a été là-bas, il a fait tout un tour de la Chine pendant plusieurs mois, plusieurs fois. Il est revenu voir Jean-Paul II, je le sais parce qu'il me l'a raconté, je le connais très bien. C'est un Belge, Jérôme Hendrix. Des scouts. C'est Belge ?
Oui.
C'est un scout. C'est un scout. Non mais les Belges sont très actifs, les missionnaires belges. Il est revenu, il a dit à Jean-Paul II, oui, il dit à Jean-Paul II, écoutez, s'il y a un schisme, je ne suis plus catholique. Le schisme, ils sont aussi catholiques que je le suis. Oui. Maintenant, vous êtes dans le Yunnan, c'est le Mekong, c'est déjà dans des zones proches du Tibet, n'est-ce pas, vous êtes
oui,
en Tibet.
Tibet géographique.
Il y a aussi la question tibétaine qui semble se mettre là-dedans. Voilà. Oui.
Est-ce que vous ne craignez pas justement le fait que vous constatez qu'il n'y ait pas de schisme, qu'à un moment donné, on se sent vraiment dans le culturel, comme on le voit notamment pour d'autres religions, ou notamment au Tibet, il y a des reconstructions de temples, mais qui sont à vocation purement touristique. L'idée, c'est de donner un sentiment de spiritualité, alors au contraire, comme vous disiez tout à l'heure, on catégorise les différents domaines culturels pour en faire quelque chose de culturel, et que ce soit en réalité simplement une sorte d'illusion de retour à la culture.
Alors il y a de tout, bien sûr. Bien sûr, il y a des cas où les gens sont bien contents. Moi, on a été visiter des temples bouddhistes plusieurs fois. Il faut payer pour entrer. Parce que c'est un site déclaré touristique. Donc vous payez pour entrer, comme vous payez pour entrer au musée. Est-ce que ça veut dire que tous les moines là-dedans ne prient pas, ou ne pensent qu'à recevoir l'argent qui est l'entrée? C'est difficile de connaître les cœurs. Certains, certainement, d'autres, pas du tout. Vous voyez ? C'est une réalité qui est différente, différenciée. Évidemment, quand on parlait au dîner, il y a beaucoup d'argent en Chine, l'argent monte. Il y a aujourd'hui des dizaines de milliers de plurimillionnaires en Chine. On en a rencontré beaucoup. L'argent est là. Ça corrompt. Un peu d'argent corrompt un peu. Beaucoup. Voilà. Alors, les religieux sont aussi pris là-dedans. D'ailleurs, j'ai aussi vu dans l'église catholique à Shanghai, vous avez des jeunes qui deviennent prêtres. Ils arrivent à la campagne, ils arrivent prêtres à Shanghai. Vous savez, Shanghai, c'est une mégapole. C'est-à-dire, Chicago, c'est un village à côté. J'exagère un peu, mais enfin, j'espère qu'il n'y a pas d'Américains. Mais c'est, voilà, vous avez tout, le luxe, tout ce que vous voulez. Il y en a qui défroquent, voilà. Il y en a qui trouvent une jeune fille. Qui, voilà. Parce que ça veut dire que tous les prêtres, qu'il n'y a pas de bons prêtres, voilà, il y en a d'autres. Il y a, vous voyez, le monde est fait de tout. Voilà. Le monde est fait de tout. Oui ?
Quelle est la place de l'islam en Chine ? Si est-ce qu'il y en a ?
Alors, il y a l'islam, il y a à peu près 20 millions, en gros, 20 millions, un peu plus maintenant, parce qu'ils font pas mal d'enfants, 22 millions de musulmans. Déjà, il y en a deux, il y a les Ouïghours qui sont dans Xinjiang, c'est ce dont on parle le plus souvent, et qui sont d'origine turque, et puis les Hui, qui sont des Han, donc des Chinois, surtout qui a été. L'islam est venu aussi par la Mongolie en partie. La Mongolie est bouddhiste. Il y a une partie qui est venue par là, qui est convertie. Mais ce sont des populations très marquées, que ce soit ethniquement, que ce soit culturellement, et il n'y a pas de grande expansion, il n'y a pas de conversion, disons, l'islam en Chine. Mais il y a un risque politique. Parce que les Ouïghours en Xinjiang, il y a un mouvement séparatiste, parce qu'il y a un mouvement terroriste aussi, qui font des attentats à la bombe. Il y a une année et demie, un fameux attentat très meurtrier, plusieurs centaines de morts dans la gare de Guangzhou, au sud de la Chine. C'était au moment du Nouvel An chinois, dramatique, terroriste Ouïghour. Quand on était en Chine, il y a eu à Shanghai aussi un magasin qui a subi une. Attentat à la bombe. Voilà. Alors, c'est particulier, je me rappelle à Shanghai, il y a quelques années, donc pour vous dire, ça évolue encore. Les gens ne voulaient plus avoir une mosquée dans leur quartier. Hein, et un quartier où les gens avaient voté, se sont plaints à la mairie en disant mais plus de mosquée parce qu'il y a des vols, c'est parce qu'il y a une mosquée. À la mairie a dit bon, d'accord, ils ont fermé la mosquée, nettement sans. Savoir où la rouvrir. Et donc plus personne ne la veut, cette mosquée. Shanghai, alors il y a des musulmans qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas leur mosquée. Mais les Hui, c'est plus facile. Hein. Les Hui, il y a des populations. Dans les Ouïghours sont, surtout dans Xinjiang, dans l'ouest, la province ouest, après le désert du Gobi, là-bas au bout. Urumqi, capitale. Mais il y en a aussi, par exemple, à Shanghai. Temple, enfin une mosquée, et puis il y a les Hui. Mais les Hui, c'est plus facile, c'est des ethnies Han. Oui ?
Est-ce qu'on peut dissocier les médecines chinoises de la religion ? Ou est-ce que ce sont des pratiques
Non, ça se dissocie très bien. C'est comme les Occidentaux qui font du yoga, les Hindous rigolent, les Indiens rigolent, parce que le yoga, c'est une pratique spirituelle, et nous on le fait comme gymnastique. Donc on peut très bien pratiquer la médecine chinoise ou en subir les bienfaits sans adhérer, disons, à une recherche d'immortalité par ce biais-là. J'entends bien. Voilà. Non, la médecine chinoise, il y a tout un courant, disons, de médecine chinoise. Moi j'ai visité un hôpital de médecine chinoise, c'est tout à fait laïque. Il y a un côté encore, c'est sûr, disons, religieux, mais il n'est pas complètement religieux. Oui ?
Et est-ce que vous avez eu l'occasion, en tant que diplomate, de justement soulever les questions liées au dialogue interreligieux, notamment les différents parallèles que vous avez pu faire avec le nom de cette déesse, dont j'ai oublié le nom, qui était apparentée à la Vierge Marie, ou par exemple des rites qui s'apparentaient parfois à des contenus de nos prières. Comme un appel qui pourrait être une sorte de révélation de l'état embryonnaire
Oui, c'est difficile de répondre à votre question. Parce que... La question est très bien, c'est la réponse qui est difficile. Je vous dirais, j'ai jamais essayé de convertir qui que ce soit. Ou jamais essayé de dire « Ah, vous priez Guanyin, vous priez Marie. » Non, parce que s'il l'a pris, il a pris. Voilà. Vous voyez, le cœur est plus grand que ça. Et puis, il ne faut pas tirer la couverture à soi. Jamais, jamais. Oui. C'est le Seigneur qui fait les conversions. S'il veut qu'on dise quelque chose à un certain moment, mais il nous fait dire, mais... Hein, voilà. Et il est... Mais je répondais quand on m'interrogeait. Quand on m'interrogeait, je répondais. Voilà. Ceci étant, vous voyez, le chinois moyen, il va au temple bouddhiste, il ira à la messe de Noël. D'ailleurs, le gouvernement a mis un holà à la messe de Noël, en disant que c'était une culture occidentale. Ce n'est pas une tradition, un rite chinois, un rituel chinois. Non, non, non. Attention, n'allez pas à la messe de Noël, parce que les Chinois, ils vont à la messe de Noël, voilà. Et ce n'est pas les Chinois qu'on compte dans les statistiques qui vont à la messe tous les dimanches. C'est, voilà, ils vont à la messe de Noël parce que c'est beau. Il n'a pas tort, d'ailleurs, c'est très beau. Mais, vous voyez, là, il faut voir qu'à Pékin, à Noël dernier, il y a eu 5000 baptêmes. Donc, à Noël, on était à la messe de Noël à la cathédrale de Shanghai. Vous avez trois messes qui se suivent. Les gens n'arrivent plus à entrer, les gens n'arrivent pas à sortir tellement les gens entrent. Il y a des haut-parleurs dehors, c'est plein. Et le gouvernement s'inquiète de tout ça. Voilà. Ça ne passe pas inaperçu. Donc, on fait revenir les traditions. Voilà. Les traditions. Oui, attends, il y a juste une question. Après, je vous prends, après j'arrête. Parce que... Oui.
Peut-être que...
Bon,
vous savez, sans qu'on écoute... C'est une question simple, en fait. C'est une question simple. La première, c'est... Je ne sais pas si c'est une question qu'on a, mais la Chine, est-ce qu'elle est ouverte au monde ou à un certain évêque? Parce que je me demande ce que c'est. Vous avez l'impression que la Chine est assez concentrée sur sa culture, puis qu'il y a une certaine ouverture que les peuples
Alors, aujourd'hui, le grand problème, c'est, dans ces temps, le grand problème de la Chine, c'est que tous les paramètres viennent de l'étranger. Vous voyez ? Le communisme, c'est pas chinois. Marx, il n'est pas de Pékin ou de Guangzhou. Marx. Le communisme, c'est pas chinois. Le libéralisme de marché, c'est pas chinois. Le christianisme, c'est pas chinois. Même le bouddhisme n'est pas chinois. Le bouddhisme était reçu en Chine. Le christianisme s'est imposé, disent les Chinois. Alors, le problème, c'est que vous avez, si vous voulez, deux couches. Une couche, c'est la modernité. Dans cette modernité, vous avez trois pôles. Le communisme, le matérialisme, le libéralisme économique, qui ne va pas nécessairement avec le communisme, et puis le christianisme, qui va venir avec l'un et avec l'autre. Et puis, la couche en dessous, vous avez les traditions. Bouddhistes, etc. Voilà, c'est pas nécessairement entre eux, grande harmonie, le chinois, il se débrouille. Mais, voilà. Puis vous avez une tension entre les deux, puis vous avez une tension verticale et horizontale. Mais le problème, c'est comment faire la modernité en retrouvant sa culture chinoise. Ça, c'est le grand problème. Ils ont trouvé, c'est Confucius. C'est par Confucius qu'ils vont faire ça. Mais voyez, le drame, c'est que tout ce qu'ils ont aujourd'hui, les grands paramètres dans lesquels ils naviguent, ce sont des paramètres importés. Ils les ont sinisés, bien sûr, comme le bouddhisme a été sinisé. Le communisme, ce n'est pas le communisme de l'Union soviétique, ça n'a rien à voir, c'est autre chose, c'est sinisé. Mais quand même, la source est étrangère, vous voyez, ce n'est pas dans leur gène. Ils ne sont pas nés que... Ben, voilà. Oui.
Mais
d'abord, la Chine est ouverte. Elle n'est pas fermée. Vous pouvez prendre un visa, partir demain pour la Chine. Pas de problème. Ils voient des films américains. Ils écoutent des musiques. Les jeunes vont manger chez McDo. Vous voyez, en Chine, c'est pas un cloisonnement. Je dis, vous ne pouvez plus avec Internet, etc. Ils vivent. Il y a des réseaux, par exemple, chrétiens, Internet. Massif, le gouvernement essaie de contrôler. Et la Chine est ouverte. Je ne veux pas dire que dans les petits villages paysans ou dans les coms où vous allez, c'est ouvert. La même chose. Mais les grands axes aujourd'hui, la Chine, sont ouverts. Ils respirent le même air que nous. Voilà. Et le problème, c'est que cet air qui respire, comme disait Deng Xiaoping, ouvrons les fenêtres. Tant pis s'il y a des moustiques qui entrent. Aujourd'hui, le problème, c'est que la chambre est remplie de moustiques. C'est-à-dire que nos défauts ont été chez eux. Alors, ils veulent assainir cela. Est-ce que... Je reste, si vous avez des questions, mais je crois qu'on va arrêter maintenant. Si vous êtes d'accord, je vous propose une petite en guise de conclusion, avant de faire un jour salut Marie, pour le mettre dans les mains de notre mère à tous. Un petit texte qui est le chant La Chine en mission et qui est lu par les Chinois, chanté par les Chinois, en chinois, par la communauté chinoise en Suisse, lorsqu'ils fêtent Notre-Dame de Shushan, qui est la Vierge de Shanghai, la Vierge de la Chine, qui est une belle prière à qui la Chine était consacrée par Benoît XVI. Voilà. Il y a une sorte d'amour qui résonne comme le bruit continu des insectes en été et se répand comme la soie que produisent sans relâche les vers de printemps. Il y a une voix qui me pousse à aller courageusement de l'avant. C'est le Saint-Esprit qui conduit mon cœur. J'avance vers la Jérusalem. Qu'il vente, gèle, neige ou pleuve, ma volonté n'en est que plus déterminée. Je veux annoncer le nom du Seigneur, affirmer la victoire du royaume de Dieu. J'avance avec une mission, celle de réveiller la Chine endormie, même au prix de ma vie, sans jamais regarder en arrière. J'avance avec une vision, celle de voir une Chine missionnaire annoncer l'Évangile aux extrémités de la terre.